une petite question dont la réponse en dira bien long. Qu'est-ce que la foi? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous allez sûrement remarquer qu'on a plusieurs sujets vraiment passionnants à traiter au cours de l'émission d'aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre les réponses aux questions que voici. Qu'est-ce qui intéresse Dieu beaucoup plus que les cérémonies religieuses? Qu'est-ce que la foi? Comment le Seigneur peut-il changer notre vie? Quelle est l'importance de la prière? Qu'est-ce qui arrive quand on se laisse aller à l'orgueil? De quelle manière est-ce que Dieu suscite un réveil? Est-ce qu'on peut donner des ordres à Dieu quand on prie? Où trouvons-nous les solutions aux problèmes du cœur de l'homme? Comment peut-on être un instrument dans les mains de Dieu? Restez à l'écoute, on est sur le point d'entendre un enseignement bien profond en réponse à toutes nos questions. La parole de Dieu va nous donner cette instruction par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, préparons-nous à les recevoir. Allons à Dieu et prions. Seigneur, prépare nos cœurs. Dispose-nous, aide-nous à ne pas penser à notre quotidien, à ne penser à rien d'autre qu'à ce que tu vas nous dire. On veut entendre ta parole, on veut qu'elle soit gravée dans nos cœurs, pour qu'elle fasse effet, pour être des serviteurs obéissants envers toi. Tu es le Dieu vivant et tu es digne qu'on t'obéisse à chaque instant. Dispose-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a livré Judas à ses ennemis parce que Akaz et le peuple se sont détournés de Dieu pour se livrer à l'idolâtrie. Akaz sacrifiait même ses fils à Baal. Il cherche le secours du roi d'Assyrie, mais ce roi le trompa. Tant qu'il y aura du péché dans le cœur de l'homme, il n'y aura pas de paix sur la terre, et on ne pourra faire confiance aux chefs d'État qui n'hésitent pas à violer les traités qu'ils signent. Ensuite, nous avons vu qu'un réveil eut lieu sous le règne d'Ézéchias. Il détruisit les hauts lieux et le serpent d'airain qu'avait fabriqué Moïse. Ce serpent était devenu une idole. Les symboles religieux ne nous apportent aucun mérite. Ézéchias rassembla les sacrificateurs et les encouragea à se consacrer à Dieu et ensuite à restaurer le temple et les sacrifices. Ézéchias organisa la célébration de la Pâque, la première depuis fort longtemps, et il invita le royaume du Nord à y participer. Ézéchias comprenait que les gens devaient revenir à Dieu et se consacrer à lui avant d'offrir des sacrifices. Il donna l'exemple en offrant des sacrifices et en s'affichant publiquement pour Dieu. Poursuivons notre étude de cette grande célébration de la Pâque. Le peuple est déjà rassemblé pour y participer. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 17. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Les gens sont venus de toutes les extrémités des deux royaumes, Juda et Israël, et plusieurs d'entre eux n'avaient pas eu l'occasion de se purifier. Verset 18 à 20. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. L'état de notre cœur intéresse Dieu. beaucoup plus que les cérémonies religieuses. Des visiteurs étaient venus du royaume d'Israël, mais personne ne leur avait jamais enseigné la parole de Dieu. Ils vivaient dans un pays idolâtre. Cependant, Dieu a touché leur cœur et ils désiraient servir Dieu et lui obéir. Avant de se présenter pour la Pâque, ils auraient dû se préparer et se purifier, mais ils ne savaient pas cela. Ils sont donc arrivés pour célébrer la Pâque sans être purifiés. Lorsque Ézéchias apprit cela, il intercéda pour eux afin que Dieu leur pardonne. Dieu entendit la prière d'Ézéchias et il pardonna à ceux qui n'étaient pas purifiés. Ceci démontre que l'état de notre cœur intéresse Dieu beaucoup plus que les cérémonies religieuses. Dieu désire une relation personnelle avec nous. Nous devons retenir cette leçon merveilleuse. Les cérémonies du temple sont appelées l'ombre des choses à venir dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Vous pourrez lire cette chose dans Hébreux chapitre 8 verset 5 et chapitre 10 verset 1er. Oui, elles étaient une image et un symbole du sacrifice de Jésus-Christ à la croix et de l'accès au trône de la grâce qui serait ouvert un jour par ce sacrifice. N'étant qu'un symbole, Dieu pouvait exempter les Israélites de la purification. Ce que Dieu veut avant tout, c'est notre cœur, un cœur purifié par le sang, par le sacrifice de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Ces gens vinrent vers Dieu et il les accueillit. Malheureusement, nous faisons souvent passer les rituels religieux avant les personnes. Nous nous divisons au sujet de la façon de prendre le repas du Seigneur ou de la façon de conduire l'assemblée le dimanche matin, alors que le Seigneur cherche vraiment des cœurs qui l'aiment, des cœurs qui répondent à son invitation. Après la Pâque, Ézéchias débarrasse le pays des idoles aménagées par son père Achaz. Chapitre 31, verset 1er. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis, tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias était l'homme de Dieu pour entreprendre toutes ces réformes. Versets 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Maintenant, examinons la vie d'Ézéchias pour voir quelle sorte d'homme il était. Premièrement, il était un homme de foi. Il avait une véritable foi, pas la contrefaçon qui passe pour de la foi de nos jours. La foi est une conviction que l'Esprit de Dieu crée dans le cœur d'une personne. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est croire assez fort en quelque chose, d'y investir toute notre force, notre énergie, de se centrer sur une chose. Une femme dit un jour à son fils adolescent qui avait acheté un billet de loterie que s'il croyait assez fort, il gagnerait. Il arrive que des athlètes affirment que si l'on croit suffisamment fort en ses capacités, on peut devenir champion national ou champion olympique. Plusieurs pensent que la foi, c'est croire assez fort ou croire suffisamment. Mes amis, la foi n'est pas une réaction psychologique à une chose. La foi n'est pas un sentiment, c'est un fait accompli. La foi est produite en nous par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est une conviction créée par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Lorsque l'apôtre Pierre fit sa grande profession de foi, le Seigneur Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 16, verset 17. La foi ne nous donne pas de mérite. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La foi n'est qu'un instrument. Le Seigneur Jésus est le Sauveur et l'objet de notre foi. Charles Spurgeon, un évangéliste du siècle dernier, déclara, « Ce n'est pas la prise que tu as sur Jésus qui te sauve, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta joie en Jésus-Christ qui te sauve, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta foi, quoi qu'elle soit l'instrument de ton salut, c'est le sang et les mérites de Jésus-Christ qui te sauvent. Il n'y a aucun mérite à avoir la foi. Ce n'est pas une question de croire suffisamment. Vous pourriez croire les mauvaises choses. De nombreuses personnes meurent martyrisées pour des fausses croyances fanatiques. Il est possible d'avoir beaucoup de foi dans une fausseté ou la mauvaise personne. La vraie foi n'apporte rien afin qu'elle puisse tout saisir. La foi dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc, chapitre 9, verset 24. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Seul le Seigneur Jésus peut changer notre vie. La portion du chapitre que nous n'avons pas lu décrit les autres réformes entreprises par le roi Ézéchias. Mes amis, lorsque le Seigneur vous sauve, il restaure votre cœur, et cela réforme votre comportement. Le Seigneur change nos vies. Rappelez-vous l'histoire du paralytique que des hommes descendirent par un trou dans le toit afin que Jésus le guérisse. Jésus lui dit que ses péchés étaient pardonnés, ce qui déplut aux scribes et aux pharisiens. Car, selon eux, c'était un blasphème, puisque seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Alors Jésus leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Ils ne répondirent rien. De toute évidence, il était aussi facile de faire l'un que l'autre. C'est aussi difficile de faire l'un que l'autre. Seul Dieu pouvait faire ces deux choses. Seul Dieu peut pardonner les péchés et seul Dieu peut guérir un paralytique. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique. « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Luc, chapitre 5, versets 22 à 24. Mes amis, si le Seigneur Jésus a ordonné à cet homme de pouvoir marcher en lui pardonnant ses péchés, vous pouvez prendre votre lit et marcher vous aussi, spirituellement. Vous vous êtes éloigné de votre ancienne vie, de votre péché? Vous êtes donc régénéré, c'est-à-dire que Dieu vous donne la véritable vie, celle qui peut servir le Seigneur Jésus. Si vous ne vous êtes pas éloigné, vous êtes encore paralysé par la présence du péché dans votre vie. Ézéchias fut un homme de foi, et cela transforma sa vie. Maintenant, il réforme son royaume. Ézéchias n'était pas seulement un homme de foi, mais il était un homme de prière. Les bénédictions de Dieu semblent se remplacer par un désastre épouvantable. Sanchérib, roi d'Assyrie, revint attaquer Juda et Jérusalem. Il commence par terrifier les habitants du pays. Chapitre 32 de Deux Chroniques, verset 1er. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. La leçon à prendre ici, c'est qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Ézéchias prit des mesures pour fortifier la ville, mais il mit sa confiance en Dieu. De plus, il a encouragé le peuple à en faire autant. Voici ce qu'Ézéchias dit au peuple pour l'encourager. Versets 7 et 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Oui, de plus, Sanchérib envoya une lettre pour démoraliser Ézéchias et le peuple. Verset 17. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Lorsque Ézéchias reçut cette lettre, il alla au temple et l'étala devant l'Éternel. Il fit une prière merveilleuse que nous retrouvons au chapitre 19 du deuxième livre des rois. Ézéchias était un homme de confiance, un homme qui avait confiance en Dieu et s'adressa à lui par des prières. Verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ézéchias se tourna vers Dieu pour avoir du secours. Son père Achas avait envoyé un présent très généreux à ce même roi, mais Sanchérib l'avait trahi. Par contre, Dieu délivra miraculeusement Ézéchias, qui lui fit confiance. Versets 21 et 22. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et les protégea contre ceux qui les entouraient. Non seulement est-ce que Dieu répondit à Ézéchias et Ésaïe en délivrant Juda de la main de Sanchérib, mais il ne permit pas à un autre peuple de les attaquer. Verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. Nous avons aussi étudié l'épisode de la maladie d'Ézéchias dans le deuxième livre des Rois. Ézéchias tomba malade et le prophète Ésaïe fut envoyé pour lui dire qu'il mourrait. Ézéchias supplia l'Éternel qui lui accorda une prolongation de vie de 15 ans. Lorsque nous sommes malades, nous devrions faire comme Ézéchias et se tourner vers Dieu. Nous pouvons aussi demander à d'autres d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Il arrive que Dieu accorde des guérisons en réponse à la prière de la foi. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Non à ceux qui affirment pouvoir vous guérir par la foi. Seul Dieu peut faire une guérison miraculeuse. Nous devons demeurer vigilants pour ne pas tomber dans le péché. Malheureusement, Ézéchias se laissa aller à l'orgueil, et il fit visiter tous ses trésors à des espions de Babylone. De plus, il donna naissance à Manassé, le pire roi qui régna sur Juda. Ceci nous montre que nous devons toujours demeurer vigilants pour ne pas tomber dans le péché. L'orgueil est le péché que Dieu hait, et il faut se méfier de lui plus que tous les autres. Lorsque Dieu nous bénit, il est facile de tomber dans l'orgueil. Dieu a laissé une écharde dans la chair de Paul, afin qu'il ne cède pas à l'orgueil à cause des révélations qu'il avait reçues de façon extraordinaire. C'est ce que nous pouvons lire dans ses lettres. Versets 32 et 33. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Manassé sera le pire roi de toute l'histoire de Juda. Mais nous reviendrons sur ce sujet à la prochaine émission. J'aimerais que nous nous arrêtions sur les réveils spirituels. Seulement Dieu peut susciter un réveil. Dieu est souverain en matière de réveil spirituel. Le Seigneur Jésus a dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Seulement Dieu peut susciter un réveil. Dieu fait cela souverainement en travaillant par son esprit. Dieu n'est pas notre serviteur. Nous ne pouvons pas sonner Dieu et le voir accourir comme un serviteur. Certaines personnes donnent des ordres à Dieu dans leurs prières, mes amis. Nous ne pouvons pas donner d'ordre à Dieu. Rappelez-vous le récit du prophète Élie qui affronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Les prophètes ont crié et se sont fait des incisions, mais Baal n'envoya pas de feu pour consommer le sacrifice. Ensuite, Élie construisit un autel et y plaça le bois pour consommer le sacrifice. Il fit arroser le bois abondamment. Ensuite, il pria Dieu et notez que sa prière avait un autre ton. Il n'ordonna rien à Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Rois, chapitre 18, versets 36 et 37. Élie s'est présenté comme le serviteur de Dieu, et il ne lui a pas donné d'ordre. Dieu a répondu par du feu, et le sacrifice fut consommé. La parole de Dieu apporte les solutions aux problèmes du cœur de l'homme. C'est dans celle-ci que nous découvrons la miséricorde et la bonté du Dieu créateur. Là où elle est prêchée fidèlement, Dieu bénit. Cela s'observe facilement. Cette bénédiction entraîne une croissance de l'Église, même parfois un réveil. Désirez-vous ardemment être un instrument entre les mains de Dieu? Aimeriez-vous que le Seigneur vous utilise pour toucher des vies? Faites un petit examen avec moi. Répondons à ces questions. Première, suis-je honnête? Deuxième, est-ce que je dis la vérité lorsque je parle ou que je conseille quelqu'un? Est-ce que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu ou non? Troisièmement, est-ce que je suis fidèle? Peut-on se fier à moi? Quatrièmement, est-ce que je me garde pur? Est-ce que je m'éloigne du péché sous toutes ses formes? Est-ce que je me garde pur dans ce monde d'images impures et de langage osé? Et cinquièmement, est-ce que je suis consacré à Dieu? Est-ce que j'ai vraiment à cœur l'avancement du royaume de Dieu et de sa justice? Mes amis, sommes-nous prêts à laisser Dieu nous utiliser pour faire avancer son royaume? Dieu utilise les personnes qui lui sont consacrées. Lorsque notre cœur n'est pas à lui entièrement, nous entravons sa puissance dans notre vie. Si nous examinons les réveils spirituels qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église, nous remarquons qu'ils ont tous un élément commun. Ils sont accompagnés d'une prédication claire de la parole de Dieu, et celle-ci n'est pas diluée pour accommoder l'humeur des populations de l'époque. Même à notre époque, nous remarquons que Dieu bénit les églises qui prêchent fidèlement sa parole. C'est sa parole que Dieu utilise pour transformer des vies, et des vies transformées attirent les gens à la personne de Jésus-Christ. Dieu bénit toute prédication centrée sur la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a donné sa parole afin que nous revenions à lui. C'est Christ crucifié que nous devons prêcher sans compromis pour connaître un réveil dans notre vie et dans celle de notre Église. Le point commun entre nous, croyants, c'est de chercher la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Est-ce le désir de ton cœur? Est-ce le désir de nos cœurs? De chercher ensemble la présence de la gloire de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Chroniques, chapitre 33.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quelle belle leçon! Je le dis au pluriel. On a reçu tellement de bonne nourriture pour notre âme aujourd'hui que je ne sais pas réellement sur quel sujet je dois m'arrêter. Que Dieu me vienne en aide. Que Régent a dit concernant la foi m'a particulièrement touchée. Il a dit que la foi est une conviction que l'Esprit crée dans le cœur de l'homme. Il a mentionné que plusieurs pensent que la foi, c'est croire assez fort ou croire suffisamment, ou que c'est une réaction psychologique à une chose. Mais on a bien vu qu'il n'en est pas ainsi. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est un fait accompli. La foi est produite en nous par le Saint-Esprit. C'est une conviction qu'il crée dans le cœur de l'homme. J'aime beaucoup la définition de la foi que Paul nous donne dans le premier verset du 11e chapitre de son épître aux Hébreux. Il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes amis, ce n'est pas comme celle de Thomas, qui a dit que s'il ne voyait pas dans les mains de Jésus la marque des clous, et s'il ne mettait pas son doigt dans la marque des clous, et s'il ne mettait pas sa main dans son côté, il ne croirait pas. Régent a aussi dit qu'on n'a aucun mérite pour avoir la foi. Il nous l'a prouvé par le 8e verset du 2e chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Mon ami, si tu n'as jamais entendu ces choses, c'est pour toi que Dieu parle à travers nous au cours de cette émission. Tu crois peut-être que Jésus existe sans avoir la foi qu'il est celui qui a le pouvoir de te sauver, de te donner la vie éternelle. Jacques nous dit dans son épître au 2e chapitre, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Je me rappelle, avant de connaître Dieu, je croyais qu'il y avait une force supérieure quelque part. Je voyais bien qu'aucun homme aurait pu créer tout ce bel univers dans lequel nous vivons, le ciel, la terre, la mer, les arbres, les fleurs, l'être humain. Je croyais que cet être supérieur pouvait peut-être être appelé Dieu, mais ça s'arrêtait là. Mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que Paul nous dit dans le 10e chapitre de son épître aux Romains, au verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon ami, si tu crois ce que je te dis en ce moment, suffisamment pour mettre ta confiance en Jésus seul, pour être sauvé, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle, eh bien tu as réellement la foi. C'est un don de Dieu. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est Dieu fait homme? Crois-tu qu'il est venu sur la terre dans le but de te racheter, dans le but de payer la dette de ton péché, afin que tu puisses être sûr que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel? Eh bien, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande-lui de te sauver maintenant, de te donner la vie éternelle. Et Jésus va le faire. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.